de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi Audrey. Il y a quelques événements à informer entre autres. Ambassadeur de Chine en Indonésie a confirmé que la coopération sino-indonésienne serait encore plus forte en 2023. Cambodge prévoit d'attirer 4,6 millions de passagers aériens en 2023. Le gouvernement est capable d'apporter des solutions aux problèmes des acteurs des PME. Au début de l'année, Pupuk Indonesia SA a préparé un stock de 1,45 million de tonnes d'engrais subventionnés. Le ministère indonésien de l'Industrie et le ministère de la Main-d'œuvre accroissent le développement des ressources humaines industrielles dans le secteur K3. La tendance hebdomadaire de COVID-19 en Indonésie est tombée en dessous de 400 cas. Menparekraf a lancé un événement international de tourisme religieux à Situbondo. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'ambassadeur de Chine en Indonésie, Lu Kang, a assuré que la coopération entre la Chine et l'Indonésie serait encore plus forte dans divers domaines en 2023. Année du lapin. Dans sa déclaration de dimanche, Liu Kang a déclaré que l'ambassade de Chine continuait également d'optimiser sa politique de visa pour soutenir la reprise des activités économiques des deux pays et de délivrer des visas afin que des milliers d'étudiants indonésiens puissent étudier en Chine. Citant le discours du président Xi Jinping lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, Liu Kang a conseillé à la jeune génération des deux pays d'avoir une forte détermination et de continuer à viser des objectifs face à cette nouvelle année. Le Cambodge devrait attirer 4,6 millions de passagers aériens en 2023 après que la Chine a optimisé sa politique de lutte contre la pandémie le 8 janvier. C'est ce qu'a déclaré samedi le porte-parole et sous-secrétaire du secrétariat de l'aviation civile d'État du Cambodge, Sin Chansere Vuta. Il a déclaré que le pays d'Asie du Sud-Est avait reçu 28 900 vols avec 2,38 millions de passagers l'année dernière. Selon Sin, les visiteurs chinois sont les principaux contributeurs au tourisme et au développement socio-économique du Cambodge. Pendant ce temps, le ministre cambodgien du tourisme, Tong Kong, a déclaré que le royaume devrait attirer au moins 1 million de touristes chinois en 2023. Une augmentation attendue après que seulement 110 000 touristes aient été enregistrés en 2022. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le gouvernement fournirait des solutions aux divers problèmes rencontrés par les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, à Situ Bondo, dans l'est de Java. Il a dit lors d'un séminaire à Groupe Village Situ Bondo, East Java, par le biais d'une déclaration officielle à Jakarta dimanche 15 janvier. Sandiaga a indiqué que plusieurs obstacles rencontrés par les acteurs de l'économie créative et les MPME sont divers, à savoir le financement, le marketing, le capital. Un certain nombre de programmes appartenant au ministère du Tourisme et de l'économie créative de la République d'Indonésie pour résoudre divers problèmes des MPME sont le programme Packaging Design Surgery. On considère que les bénéfices du programme différenciat se font réellement ressentir directement par les acteurs économiques. Entreprise publique Pupuk Indonesia SA a préparé un stock d'engrais subventionné de 1,45 million de tonnes, soit 194% du stock minimum requis fixé par le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré dimanche le responsable des communications d'entreprise de Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, à Jakarta. Le stock d'engrais subventionné se compose de deux types, à savoir l'urée et le NPK. Pour cette année, le gouvernement a fixé un prix de détail le plus élevé pour les engrais subventionnés. Wijaya a souligné que son parti n'hésitera pas à prendre des mesures fermes contre les distributeurs et les kiosques dont il est prouvé qu'ils vendent des prix d'engrais supérieurs au HET. Le ministère de l'Industrie et le ministère de la Main-d'œuvre de la République d'Indonésie renforcent le rôle de la mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail K3 dans les ressources humaines industrielles, ce qui est très crucial pour réduire le nombre d'accidents du travail. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Agence de développement des ressources humaines industrielles, BPSDMI, du ministère de l'Industrie, Arus Gunawan, dans sa déclaration à Jakarta dimanche. Arus a déclaré qu'afin d'améliorer l'application de la SST dans l'industrie, un expert ou un spécialiste de la SST est nécessaire pour aider à inculquer les principes de la SST sur le lieu de travail. Le BPSDMI du ministère de l'Industrie, la Direction générale de l'Inspection du travail et le K3 du ministère de la Main-d'œuvre ont collaboré à la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La signature de cette collaboration fait partie d'une série d'événements de commémoration du mois K3 à Amerta Indah Otsuka SA à Sukabumi, Java occidental. Le ministère de la Santé de la République d'Indonésie rapporte que la situation de COVID-19 à l'échelle nationale au cours des deux dernières semaines a montré une tendance constante à la baisse des cas quotidiens à moins de 400 cas de confirmation positive. D'après le dernier rapport, dimanche, les cas confirmés quotidiennement au cours des deux dernières semaines sont passés de 604 à 378 cas. Les cas actifs au cours de la même période sont passés de 15 206 à 7 774 cas. Le ministère de la Santé a également indiqué que le nombre d'échantillons examinés au cours des deux dernières semaines était passé de 32 268 à 31 367 échantillons examinés. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a initié un événement où une conférence internationale sur le tourisme religieux à Situ Bondo, Java orientale, qui invitera au moins 7 pays. Les 7 pays sont la Turquie, l'Ouzbékistan, la Malaisie, Brunei, Singapour, le Maroc et un pays d'Europe. Sandiaga Uno l'a dit lors de l'inauguration de la construction de la zone du tourisme religieux de Sukwa Regio autour de l'internat islamique Salafia Shafia à Situbondo. Dans l'est de Java, par le biais d'un communiqué officiel de Jakarta, dimanche 15 janvier, à cette occasion, il espérait que le développement de la zone de tourisme religieux de Sukwa Regio deviendrait un lieu de conférences internationales sur le tourisme religieux. Son groupe réalisera également une carte de voyage où l'un des arrêts sera à Sukwa Regio ou un site touristique religieux, un fer à cheval, qui est l'image de marque d'une zone de tourisme religieux. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre l'Indonésie à la présidence de l'ASEAN 2023 et de la zone de libre-échange avec l'Union européenne. L'Indonésie est officiellement devenue la présidence de l'ASEAN 2023 après que le président Joko Widodo a reçu le relais du premier ministre cambodgien Hun Sen lors des 40e et 41e sommets de l'ASEAN en novembre 2022 au Cambodge. L'Indonésie porte le thème « L'ASEAN compte l'épicentre de la croissance » qui illustre l'esprit de fer de l'ASEAN et l'épicentre de croissance mondiale. Ce thème est très pertinent compte tenu du fait que l'ASEAN est un grand marché avec une population de 660 millions de consommateurs et que le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers la région Indo-Pacifique. L'ASEAN et d'autres pays asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée jouent un rôle majeur dans les activités commerciales mondiales. Les pays occidentaux, y compris l'Union européenne, UE, commencent à prendre en compte la force géoéconomique car elle est étroitement corrélée à la force géopolitique. En tant que présidente de l'ASEAN 2023, l'Indonésie joue un rôle central dans le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et l'Union européenne, en particulier dans le domaine du commerce. L'histoire de la coopération et du dialogue entre l'ASEAN et l'Union européenne a commencé en 1977 et jusqu'à présent, 15 réunions et accords importants ont lieu. Avec la coopération croissante, la valeur des échanges entre les deux parties a également augmenté d'année en année, avec la tendance croissante des importations de l'Union européenne en provenance de l'ASEAN de 3,4% par an au cours de la période 2017-2021. L'Allemagne, les Pays-Bas et la France contribuent pour plus de 49% des importations totales en provenance de l'ASEAN. Pendant ce temps, les plus grands exportateurs sont le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie. L'ASEAN, dans son ensemble, représente le troisième partenaire commercial de l'Union européenne en dehors de l'Europe, après la Chine et les États-Unis en 2021. L'Union européenne est le deuxième plus grand investisseur dans les pays de l'ASEAN. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène plus récent, les investissements de l'ASEAN en Europe ont également augmenté régulièrement et de manière impressionnante en 2019. Les principales exportations de l'Union européenne vers l'ASEAN sont les produits chimiques, les machines et les équipements de transport. Les principales importations de l'ASEAN vers l'Union européenne sont les machines et équipements de transport, les produits agricoles ainsi que les textiles et vêtements. Même avec un profil positif de coopération en matière de commerce et d'investissement, les relations entre l'ASEAN et l'Union européenne dépendent fortement de nombreux facteurs en dehors des questions économiques, par exemple les problèmes de sécurité mondiale, la menace du réchauffement climatique et la tendance à la démondialisation qui s'est produite dans la dernière décennie. Dans quelle mesure l'Indonésie est-elle capable de jouer son rôle de président de l'ASEAN 2023? Cela élèvera le nom de l'Indonésie sur la scène mondiale et facilitera le rêve de devenir un pays développé en 2045. Ces auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 15 janvier 1992, signature de l'accord de paix de Chapultepec. La guerre civile d'El Salvador a eu lieu entre le gouvernement militaire d'El Salvador et le Front de libération Farabundo Martí, FMLN, une organisation de gauche, le 15 octobre 1979. Il y a eu un coup d'État suivi de l'assassinat d'anti-manifestants du coup d'État par le gouvernement. Cet incident est devenu le déclencheur de la guerre civile à El Salvador. La guerre, qui a duré plus de 12 ans, a entraîné la perte d'un certain nombre de personnes et 75 000 personnes sont mortes. La fin de la guerre civile, El Salvador a été marqué par l'accord de paix de Chapultepec à Ville de Mexico, au Mexique, 16 janvier 1992. Nous continuons avec l'événement du 16 janvier 2001. Le président de la République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila, est assassiné. Laurent-Désiré Kabila était président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997, après la mort de Mobutu Sese Seko jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Laurent-Désiré Kabila a été abattu par son garde du corps adolescent. L'incident tragique s'est passé au palais présidentiel, Kinshasa. À ce moment, Kabila discutait avec un conseiller économique. Un garde du corps de 18 ans entre et dégaine une arme et tire 4 fois. Il est alors remplacé par son fils, Joseph Kabila. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 16 janvier 2006. Ellen Johnson Sirleaf a prêté serment en tant que présidente du Liberia. Le 16 janvier 2006 est devenu un jour historique pour l'Afrique, en particulier le pays du Liberia. Ce pays était officiellement dirigé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf. Ce jour-là, elle a prêté serment devant le peuple du Liberia et les invités de l'État, y compris la première dame des États-Unis, Laura Bush, épouse du président George Walker Bush, et secrétaire d'État américaine, qui est également une femme, Condoleezza Rice. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et le Timor-Leste discutent de la coopération économique et frontalière ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite du ministre des Affaires étrangères de Timor-Leste, Adeljiza Albertina Xavieres Magino, à Jakarta, mercredi dernier, 11 janvier. Ils ont discuté du renforcement de la coopération économique et du règlement des frontières terrestres entre les deux pays. Dans une déclaration écrite, le ministre indonésien des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres des Affaires étrangères avaient convenu de commencer à discuter de la formation d'un accord conjoint de zone de libre-échange dans la zone industrielle frontalière entre le district d'Uekus au Timor-Leste et la province de Nusa Tenggara Orientale en Indonésie. En outre, la réunion a également discuté de l'importance d'accélérer l'achèvement du traité bilatéral d'investissement ainsi que du protocole d'accord sur les communications et l'informatique. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu que des efforts seraient faits pour finaliser ces accords cette année afin qu'ils puissent être signés lors de la visite du Premier ministre du Timor-Leste en Indonésie, dont la date sera déterminée ultérieurement. Concernant la frontière terrestre, les deux ministres ont convenu de pousser les efforts pour régler les discussions sur les deux segments de la frontière terrestre Indonésie-Timor-Leste, à savoir Bijel Sunan Obin et Noel Besi Citrana. Retno Marsudi a déclaré qu'il est important de maintenir des conditions propices aux négociations afin qu'elles puissent se poursuivre. Lors de la réunion, il a également expliqué les priorités que l'Indonésie poursuit en tant que président de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour cette année. Lors du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh en novembre 2022, l'ASEAN a accepté l'adhésion de principe du Timor-Leste. La feuille de route pour l'adhésion à part entière n'a pas encore été élaborée. Auparavant, lors de la déclaration à la presse annuelle de la ministre des Affaires étrangères 2023, Retno Marsudi a souligné que l'Indonésie se félicitait de l'acceptation des principes du Timor-Leste dans l'ASEAN. L'ASEAN, qui a été fondée le 8 août 1967, se compose actuellement de 10 pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei Darussalam, le Cambodge, le Laos, le Vietnam et le Myanmar. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Pertama melihat kamu, malu-malu ku sapa, hello, hello. Ingin aku berteman, dan memulai ku sapa, hello, hello. Bintang-bintang di langit bertebaran cahayanya terang. Oh, oh, oh. Seperti duniaku selalu berwarna-warni terang. Oh, oh, oh. Berteman denganmu membuat aku seperti bidadari yang menari di awan menyentuh langit-langit biru. Berteman denganmu hatiku pun semakin ceria. Aku berdansa memeluk pagi, siang, sore sampai malam. bintang di langit, pertebaran cahayanya terang. Seperti duniaku selalu berwarna-warni terang. Berteman denganmu membuat aku seperti bidadari yang menari di awan, menyentuh langit-langit biru. Berteman denganmu, hatiku pun semakin ceria. Aku bertahan sama memeluk pagi, siang, sore, sampai
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces territoires, parmi les plages les plus populaires d'Ambon, la plage de Liang est sans conteste l'une des plages préférées des résidents locaux et des touristes étrangers. La plage de Liang a été célébrée depuis les années 90 et certains disent même que cette plage est la plus belle plage d'Indonésie. La plage de Liang, en raison de sa beauté, est souvent un sujet de conversation entre investisseurs étrangers. Ses qualités ont été reconnues par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, qui a déterminé en 1990 que la plage de Liang était l'un des plus beaux sites en Indonésie. Ces retards, une fois que vous entrez sur la plage de Liang, située dans le village du même nom, dans le sous-district Salahutu, la résidence des Moluques centrales dans la province des Moluques, vous serez accueilli par le sable blanc mousseux exposé au soleil. En outre, la mer vous offrira une gradation de couleur blanc, vert clair et bleu foncé. Il est très fascinant, la plage de Liang possède en notre nom, la plage d'Unimua. Elle est célébrée comme la plus longue plage de sable blanc d'Indonésie. Cette plage vous offre l'ombre d'un arbre pour vous y asseoir et vous reposer tout en profitant de la beauté de la plage et en dégustant des boissons et des collations qui sont vendues par les marchands. Dans une partie de la plage, il y a un quai en bois simple qui peut animer l'ambiance de la plage. Parce que là-bas, il y a habituellement quelques visiteurs, en particulier les enfants qui s'amusent à sauter dans l'eau du haut du quai. Ces retards, si vous voulez visiter la plage de Liang, qui se trouve à environ 40 km de la ville d'Ambon, vous pouvez prendre un taxi moto. Cela vous coûtera environ 40 000 rupiah ou encore le bus Trans Ambon avec la direction d'Unimua qui vous coûtera 10 000 rupiah par personne. Mais si vous allez avec des amis, vous devriez louer un transport public pour visiter la ville d'Ambon et ses alentours, car en plus de ne pas cher, vous pourrez ainsi également visiter de nombreux lieux sans vous soucier des limitations de transport. Un transport en commun peut généralement être loué avec le tarif de 150 000 à 200 000 roupias et il peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Malheureusement, il n'y a pas d'hôtel ou de logement pour passer la nuit sur la plage de Liang. Mais si vous êtes avec des amis qui veulent rester ici, vous pourrez y installer une tente. Mais bien sûr, n'oubliez pas de demander la permission aux gardes locaux. Une autre manière est d'essayer de louer des maisons aux villageois autour de la plage. En outre, si vous voulez visiter cette plage, vous devez considérer plusieurs choses, dont l'un est de visiter la plage dans les mois où la mer est calme, c'est-à-dire de septembre à novembre ou d'avril à mai. Lorsque la mer est agitée, les eaux côtières deviennent troubles. Chers auditeurs, si vous êtes au Molouk et avez encore du temps, n'oubliez pas de se rendre à la belle plage de Liang et d'apporter un appareil photo, en particulier pour ceux d'entre vous qui ont la photographie comme passe-temps, parce que chaque coin de la plage mérite d'être immortalisé. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Cultura pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Cinta seperti yang pernah aku miliki bersamamu. Kala itu kita nikmati hari, hidup begitu terasa sangat berarti, penuhi cinta hancurkan dirimu, berbagi cinta dengan dirinya. Kau pergi dan tak kembali, hingga tak ku dapat lagi. Seperti waktu denganmu, seteduh
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Tiba di Bandara, c'est-à-dire arriver à l'aéroport. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Saya datang sendiri. Je répète, Saya datang sendiri signifie Je suis venu seul. Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Saya datang sendiri. Je répète. Saya datang sendiri signifie je suis venu seul. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Saya. Saya. En français, je. Datang. Sendiri. Datang. Sendiri. Signifie venir seul. Saya. Datang. Sendiri. Saya datang sendiri. En français, je suis venu seul. Kapan. Kapan. En français, quand. Kapan kamu akan pulang. Kapan kamu akan pulang. En français, quand tu rentreras. Bulan depan. Bulan depan. Signifie le mois prochain. Aku akan pulang. Bulan depan. Aku akan pulang bulan depan. En français, je rentrerai le mois prochain. En plus de saya, saya qui signifie je, aku qui signifie je aussi, est un autre exemple de pronom à la première personne. Aku, je répète, aku, qui signifie je, est généralement utilisé dans des situations plus familières. Écoutons la conversation sur l'utilisation des pronoms à la première personne. Écoutons un autre exemple de l'expression pour transmettre un but. Kapan kamu akan pulang? Kapan kamu akan pulang? Signifie quand tu rentreras? Aku akan pulang bulan depan. Aku akan pulang bulan depan. En français, je rentrerai le mois prochain. Dans la conversation entre les agents d'immigration et d'Ève, il y a aussi un pronom à la deuxième personne, à savoir Anda. Anda, qui signifie vous. Le mot Anda, je répète, Anda, qui signifie vous, est utilisé pour saluer la personne à qui l'on parle. Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasa dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Takdirkan berjumpa, padahal kita tak takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya. Menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama. Di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson keroncong intitulée Sumpah Ku Mencintaimu. Chers amis, Sumpah Ku Mencintaimu, en français, Je jure que je t'aime, est l'une des chansons populaires du groupe Seventeen. Cette chanson est sortie en 2013. Cette chanson raconte comment un très grand et fort sentiment d'amour pour un partenaire. Bon, chers auditeurs, voici Alsa Akila et Five In vont chanter une chanson intitulée Sumpah Ku Mencintaimu. En français, Je jure que je t'aime. Bonne écoute. Sempurnamu dalam bersamaku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.